A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Comment allez-vous autour de cette table numérique virtuelle?
Ça va très bien et toi, c'est une très belle table, hein, j'aime beaucoup.
T'as vu ça? Alors pour expliquer aux gens, je suis qu'à contact, donc je ne peux pas être en présence d'autres personnes. Donc on va attendre les résultats du test, en espérant d'être en parfaite santé, bien évidemment. Nous sommes ce soir avec Flaubert, auteur, réalisateur.
C'est déjà bien, c'est juste que j'écris et je réalise sur des trucs différents, mais je suis auteur, réalisateur.
Elles sont belles, tes BD derrière, je trouve. Elles sont très jolies.
Ouais. Ah, mais j'ai pas...
Ouais,
J'ai pas rangé. Je suis désolé, j'ai pas rangé. Non, mais j'ai pas rangé. C'est un peu le bordel. Ouais, ouais, il y a quelques trucs derrière. Mais j'ai pas... Ouais, désolé.
Est-ce que tu connais le principe du générique, j'espère?
Bien sûr que je le connais.
Alors, c'est parti.
Allez.
Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable...
Magla.
Ainsi que l'inimitable... Sans oublier l'incorrigible...
Florent Bernard.
Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant.
Wow.
C'était dur là, non? Je sais pas ce qui s'est passé dans vos oreilles, mais... C'était fou, non?
C'est passé un truc bizarre, ça va? Tu veux en parler ou pas?
Premier bug, très rapide.
Ah bon?
Tu t'entends?
Ah
oui, ok.
Ok,
c'est bon, pardon.
Je suis très content de vous retrouver ici autour de cette table virtuelle. Oh là là, on sort les goodies. Allez, on sort
Regardez
les goodies.
Cette belle tasse. Regardez. Oh là là.
On est...
Oh là là.
Voilà.
Corpo jusqu'au bout.
Il sait pas quoi faire.
moi aussi, grave, c'est une tasse 301 vues, grave.
On la reconnaît d'ici. Ça fait des mois et des mois qu'on cherche une thématique d'émission avec Flaubert. C'est pas vrai, on l'a trouvé il y a 10 minutes.
C'est ça.
Aujourd'hui, on va discuter des invitations qu'on n'aurait pas dû accepter. Ça peut aller d'une interview, plateau télé ou autre chose dans notre vie plus tôt, il y a longtemps.
Oui.
On va parler de ça tout à l'heure, mais il me semble qu'on a des petites news, des petits jeux.
Bah là,
Flaubert, déjà, Actu, tu as sorti une bande dessinée que tu as scénarisée.
Nous avons sorti une BD, effectivement, avec David Combet, l'illustrateur, dessinateur, qui a aussi fait les couleurs. Enfin, il a tout fait. En gros, j'ai écrit l'histoire, mais tout le reste, c'est lui. Effectivement, qui s'intitule Oli et l'Alien, qui est une bande dessinée d'aventure avec beaucoup de comédie. Ça se veut d'abord drôle, mais normalement, c'est censé être un petit peu touchant aussi. Mmh. Et c'est une BD de 100 pages aux éditions Delcourt dans la collection
96.
De 15 en moins. 96, pour être tout à fait exact.
Je suis un peu dans le milieu de la bande dessinée.
J'essaie de griller 4 pages, c'est vrai, je suis une ordure. 96, c'est dans la collection de Davy Mourier. Voilà, petit format sympa, une jolie petite BD qui a été travaillée avec cœur, avec orfèvrerie.
On n'en doute pas, elle est très belle.
Ouais,
si ce n'est pour l'histoire, en tout cas, faites-le au moins pour les très beaux dessins et les très belle couleur de David Combet. Voilà.
Franchement, c'est une des plus belles couves de BD de
créateur de
net, ou je sais pas comment on dit.
Ah bah merci beaucoup.
Et à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Moi, j'ai un petit jeu autour des bandes dessinées.
Ah.
Est-ce qu'on commencerait par ça?
Allez.
En plus, je sais, c'est un jeu. Je suis sûr que le chat va adorer. C'est
du versus.
C'est du clash.
Ah, très bien. Il y aura du sang, ils seront contents.
Allez,
c'est parti. On commence avec le premier jeu qui s'appelle Qui a fait le plus de ventes.
Je sais pas comment on
fait
ça.
Très vite, on a accès thunes. J'adore.
Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pensé chat. Moi, je pense, tu vois, viewer, le stream. Alors, c'est un jeu assez simple. C'est que je vais vous donner deux bandes dessinées qui ont été scénarisées. Je réfléchis si elles ont été dessinées, mais je crois pas. Si, il y en a une qui a été aussi dessinée par un youtubeur. Mais... Deux BD qui étaient sorties par des youtubeurs. Et il faut deviner laquelle a le plus rencontré, en tout cas le public le plus large, d'accord?
D'accord. Okay.
Qui s'est vendu le mieux, quoi, tu as compris. Alors, on va commencer avec une première petite confrontation. Attendez, on commence avec Rémi Gaillard, Emmerde la télé, dessinée,
ah ouais.
Très connue.
Okay. Il emmerde la télé, ok.
Ah ouais, Rémi Gaillard, Emmerde la télé.
Okay,
normalement,
d'accord.
On a un petit asset qui arrive, je l'ai mis à la régie.
Ça arrive, ouais. Alors,
Rémi Gaillard, Emmerde la télé, c'est sorti en 2011, juillet 2011. Versus Joueur du Grenier, tome 1, sorti en 2012. Okay, donc franchement, ils sont sortis à 6-7 mois d'écart.
Bah, Joueur du Grenier, il y a eu plusieurs tomes. Donc j'aurais tendance à dire que
je parle du tome 1.
Ouais, mais le titre de Rémi Gaillard, ça fait vachement drama. Du coup, est-ce que les gens vont pas vouloir l'acheter parce que ça fait drama? En mode, c'est emmerde.
Bah, il emmerde la télé.
La télé.
Ouais.
Alors, juste pour l'anecdote, sur la BD de Rémi Gaillard, regardez le player. Normalement, les anciens reconnaissent.
Ah oui, ok.
C'est un player Dailymotion, tout simplement.
Ok, d'accord.
Ah oui.
Ah, mais pour ça, les gens, ils achètent.
Voilà. Non, mais il avait. Mais moi, j'ai feuilleté les deux, mais je me souviens plus de Rémi Gaillard. Okay. Parce qu'il y a vraiment caricature de Arthur, de Denis Brognard, et genre vraiment.
Il emmerde.
En fait, c'est un peu la BD du monde à l'envers.
Il emmerde tout le monde. Ok.
Mais, avec un truc genre, moi, je suis énervé et tout. Mais je pense que c'est joueur du grenier, moi.
Je dirais joueur du grenier aussi, ouais.
Ok, et effectivement, c'est joueur du grenier avec 20 000 ventes versus 8 500 ventes pour Rémi Gaillard. Là, on parle de ce qu'ils appellent les sorties caisses. Donc, je crois que c'est vraiment des chiffres qui sont remontés par les distributeurs. J'en connais pas plus. Vous savez, toutes les informations les plus floues sont dans 300 000.
Sans parler du streaming, bien évidemment.
Oh, bah là, que de la merde.
Je suis rappeur.
Deuxième, attention, celui-là, il me plaît beaucoup. Deuxième confrontation. Est-ce que vous connaissez Frigiel et Fluffy?
Ouais.
Oh bah oui.
Frigiel.
Ah, c'est Soleil, c'est
illustre,
Soleil.
Illustre youtubeur de Minecraft essentiellement et de gaming versus les aventures de Link et Terracide. Alors,
Link et Terracide, gros succès, je crois. Hein.
Grosse fanbase.
C'était 2018.
Ouais, j'allais demander c'est sorti quand. Ah, je dirais moi je pense cash Link et Terracide, je pense.
Link et Terracide aussi moi.
Ok, Link et Terracide ont vendu 83 000 bandes dessinées.
C'est énorme. Hein.
Ah ouais.
Et 90 000 pour Frigiel, donc c'est beaucoup. Enfin, c'est un peu plus.
Ah ouais.
Tout à fait.
Ah, tu vois.
Ah ouais.
Frigiel et Fluffy, le mystère des pastèques perdues, avec 90 000 ventes. Donc, si vous inquiétez pour Frigiel, il est blindé.
Mais Frigiel et Fluffy, c'est aussi une histoire adaptée de ce qu'ils sont.
Je pense. Quoi.
Non, parce que, excusez-moi, je suis en fin de carrière, je vous le dis. Là, j'ai enchaîné une BD, une série sur Canal+, je la place très vite. Énergie, 15 jours, cas contact également pour moi, donc beaucoup de choses se passent dans ma tête. Non, mais parce qu'il y a les BD de gens d'Internet, un peu comme Oli et l'Alien, qui ne sont des inventions et des trucs qui sont adaptés où c'est leur personnage, comme Wankil, c'est leur personnage qui sont... Est-ce que eux, c'est leur personnage aussi?
Ouais, bien sûr. Frigiel et Fluffy, c'est, enfin, en tout cas, Frigiel, c'est le youtubeur et Fluffy, je pense que c'est un petit personnage qu'il a inventé par la suite. Mais c'est très très fidèle, je suis d'accord avec quand même son personnage.
Ok.
Mais là, on est sur du gros volume de vente. Hein.
Ah ouais.
Oui.
Voilà.
Mais après, je pense que l'édition Soleil, ça te joue aussi, non? Soleil, quand même, c'est la classe, non?
Il y a deux trucs en fait, c'est que t'as les BD.
Je pense pas.
Ah ouais. Non, okay, ça dépend, non, je sais pas.
Non, ça dépend. Soleil, c'est aussi quand même les gens qui font les blondes ou les trucs comme ça, donc il y a un peu de choses.
Ouais,
mais par exemple, je sais que Wankil, tu pouvais aussi trouver leur BD à l'entrée des supermarchés aussi, ce qui n'est pas du tout un truc pour les descendre, loin de là, mais c'est juste du coup, c'est des très gros volumes de vente parce qu'il y a beaucoup plus de public. Tu vois, moi, jamais Oli et Lalien, c'est vraiment que dans des librairies ou des Fnac parce qu'en fait, on vise beaucoup moins de gens, tu vois, fatalement. Tu vois. Et c'est pour ça que je posais la question sur est-ce que c'est adapté de leur personnage parce que forcément, Wankil, par exemple, les petits persos, tu les as vus partout, quoi.
Nouvelle confrontation, attention. Celle-ci, je la trouve assez ultime. Nous avons d'un côté Kiei, le manga de Kevin Tran de la chaîne Le Rire Jaune, versus Noob, sorti en 2010. Donc Noob, c'est comment décrire Noob ? C'est une web série.
Voilà. Ouais.
C'est une web série qui souvent arrive à générer énormément de fanbase puisqu'ils arrivent souvent à financer des nouveaux projets, quoi, juste avec leur fanbase.
Exactement.
Et donc, Cardona, c'est connu en plus le dessinateur, non ?
Je sais pas du tout. Je sais
ça,
pas.
Je sais pas.
Mais c'était dans Coyote, il dessinait dans Coyote un magazine il y a longtemps animé. C'est très cool. Mais moi, je dis
Noob
en tout cas.
Nous avons Kiei qui est sorti en 2016 et Noob qui est sorti en 2010. Donc il y a 6 ans d'écart. 6 ans d'avance pour Noob.
Kiei, c'est un vrai succès, ça je sais.
Ouais,
quoi,
je dirais Kiei.
Mais Noob, il y a. Noob. Je sais pas. Franchement.
Dans le chat, on nous dit 50-50. Donc il y a des gens
qui c'est ça. Mais je suis un peu pareil.
Il y a beaucoup de Kiei quand même aussi. Hein.
Ouais.
Je dirais Kiei, mais ça me surprendrait pas du tout que ce soit.
Moi, je dirais Noob. Ouais. Noob. La commu. Hein. Ils ont eu 1 million d'euros et plus. Tu vois, je sais pas.
Oui, non, je sais que ça draine beaucoup de gens, Noob. Même moi, je faisais des conventions quand j'étais dans l'histoire du futur avec les Noobs et vraiment, il y avait énormément de gens qui venaient les voir. Mais je dirais quand même Kiei parce que j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une grosse effervescence autour de ça. Quand même.
Eh bien, c'est Kiei qui est largement devant avec 333 000 ventes du tome 1.
La vache.
C'est, je crois, la BD
c'est DBZ,
de YouTuber. Franchement, je crois que c'est l'équivalent de tout cumulé, de tout le jeu qu'on va faire.
Ah la vache.
Et Noob a fait 51 000 ventes
51.
depuis mars 2010.
Ah ouais.
Donc ouais, il y a tu rentres 6 fois Noob tome 1 dans Qui est I. Qui est I, vous avez raison, est un énorme carton. Et si on cumule alors là tous les tomes,
ça en fait beaucoup, ouais, en plus ça, c'est une vraie histoire.
4 ou 5, je dirais, des tomes. Voilà.
Et en même temps, Qui est I, alors moi j'ai pas tout lu, mais ce qui est vrai, c'est que tu as la vraie sincérité derrière quoi. Tu sens que c'est vraiment des gars qui veulent raconter cette histoire et tout. C'est pas que une maison d'édition qui est venue voir un youtubeur en disant tu veux pas faire une BD. Là, c'est comme mais comme Roger c'est humain d'ailleurs, c'est vraiment un truc où tu sens qu'il y a une vraie envie derrière de raconter cette histoire, quoi.
Ouais, c'est et puis aussi la passion du manga. Enfin, tu vois, c'est pas genre je fais une BD pour faire une BD. Bref.
Exactement.
333 000 ventes du tome 1 depuis octobre 2016. C'est
énorme.
Très mérité. Nouvelle confrontation, j'adore là. Attention. Là, le sosie maléfique par Emma Kakup.
Ah, oh,
peut-être, je ne sais
okay.
pas.
Bien sûr. Okay.
Versus Baté Gaël, ça c'est vraiment BD. Donc Emma Kakup a sorti sa BD en 2017 et Baté Gaël en 2019, deux ans plus tard.
Ce qui est fou,
selon vous, qui a fait le plus de ventes?
Ce qui est fou, c'est que Baté Gaël, c'est le lombard, quoi, les maisons d'édition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le chat, mais le lombard, c'est le truc le plus. Mais ouais, c'est genre, c'est un verre de scotch et tu fais remuer des glaçons, quoi. C'est incroyable.
T'es en train d'influencer là un petit peu là, non?
Non, mais je dis justement, je dis pas que.
Ils
ont fait pas mal de dédicaces, Baté Gaël. Parce que mine
Est-ce
de rien,
que tu peux parler de Jungle maintenant? Est-ce que tu peux nous raconter comment sont les.
Ah non, je connais
plus
pas.
Plus avant, le whisky, les glaçons. Parle-nous de Jungle désormais.
Du JB.
Non, mais en plus, j'en sais rien du tout. Mais Baté Gaël, je sais qu'ils ont fait quand même pas mal de dédicaces. Mais j'avoue, je connais pas très bien Emma Kakup.
Ouais, je connais pas du tout Emma Kakup. Du coup, je dirais pas.
D'ailleurs, ça fait. Depuis le début, moi, je disais. Emma Cupcake, donc déjà c'est vous dire que moi je suis un énorme ringard, donc
moi je dirais Emma Cupcake hein, quand même.
Je pense pas que son public achète
Insta,
une BD pour être
ouais.
Ah moi j'aurais dit Baté Gaël.
Les kids.
Ouais. Je les vois plus avec justement un public qui achèterait une
dans
BD.
Dans le chat exactement. On nous dit vraiment Baté Gaël. Hein.
Ouais, je pense que c'est Baté Gaël aussi.
Alors Baté Gaël ont fait 5600 ventes depuis septembre 2019 et le sosie maléfique d'Emma Cupcake a fait 54 000 ventes,
ouais,
donc autant que
Noob. Ah oui, d'accord.
Donc on est sur un 10 fois plus.
Ah ouais.
La
pour Emma Cupcake.
Après Baté Gaël, elle est sortie il y a pas très longtemps. C'est peut-être ça aussi qui.
Ouais, c'est ça aussi.
Tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a deux ans qui les séparent, mais j'avoue, je n'avais pas spécialement remarqué moi la BD de Emma Cupcake dans les rayons tout ça. Donc voilà, c'est la the surprise. J'étais pas du tout au courant de tout ça. Voilà, on en apprend plein de choses sur 300 000 vues, tout ce qui est en termes de thunes et d'argent ça.
L'argent.
Nouvelle confrontation. Attention. D'un côté, nous avons. Elles sont sorties presque au même moment. Gérald, tiré de Léopold le Marchand, sa série Gérald, l'homme qui prenait tout au premier degré.
Au premier degré, bien sûr.
Au premier degré.
Bien évidemment. Évidemment.
Versus Follow Me de Masqué, qui était dessiné par Malek, qui sont sortis presque au même moment, c'est-à-dire fin 2019, début 2020.
Pareil, ouais. Gérald, tu sais que Léopold a fait pas mal de dédicaces.
Ouais.
Donc je pense.
Alors ouais, mais le prono n'a pas marché pour Baté Gaël tout à l'heure.
Ouais,
non,
ouais.
C'est vrai. Mais Masqué, il a fait très peu de promos, quasiment aucune, je crois.
Il a sorti quand même une vidéo qui en parle.
Ouais,
il a
une vidéo
en loose day quand même.
Non, pas en loose day, mais je sais. Enfin, je sais. J'ai pas mémoire de. Il a fait beaucoup de.
Gléna, quoi.
Moi, je dirais Gérald. Parce qu'en plus, t'as le public de McFly et Carlito. T'as pas mal de trucs
oui, c'est
qui vont avec quand même.
Alors, tu parlais du Lombard. Gléna, c'est huge aussi. Hein.
Ouais.
Je crois que. Enfin, j'ai pas vu d'autres BD du youtubeur, on va dire. Chez Glénat, quand j'ai appris que c'était chez Glénat, j'ai fait oh putain, c'est.
Non, mais je dirais Gérald.
On nous dit dans le chat Gérald parce que Masqué communique pas beaucoup. Mais c'est vrai que.
J'en ai pas beaucoup entendu parler non plus. Ouais.
Alors, nous avons Follow Me 3000 ventes, 3160 ventes, pardon.
Ah ouais,
et Gérald 13 300.
Voilà. Ah ouais, bah
donc
ouais.
Nous avons effectivement beaucoup plus de ventes de la part de Gérald et je pense que c'est aussi probablement lié au fait d'avoir défendu sa BD en dédicace également.
Et Gérald est un personnage que les gens connaissent alors que la BD de Masqué est 100% originale, quoi, mine de rien.
Dans ce qu'on se dit là, dans toutes les BD que je vous ai montrées, c'est la première qui n'est pas tirée d'un personnage de YouTuber.
Avec
c'est
également...
Oui,
c'est vrai.
Ouais, tu n'es pas encore, désolé, dans les... D'ailleurs, il n'y a pas les ventes de Oli. J'ai oublié de demander les ventes.
Ah non, mais alors sache que moi-même, je ne les ai pas encore. Hein. Donc, rassure-toi.
On va les
ne m'humilie pas en public, je ne les connais pas. Donc, voilà.
Alors, nouvelle confrontation. Alors, celle-ci, elle est un peu cheatée parce que comment dire, c'est des BD qui sont sortis avec beaucoup de temps d'écart. Nous avons du coup la BD de Dirty Biology, La grande aventure du sexe, dessinée par son frère, tout à fait, qui s'appelle Cola. Et en face, nous avons Le Monde à l'envers, qui vient de sortir sa BD il n'y a pas longtemps, donc en septembre 2020. Et Dirty Biology, c'était fin 2017, donc il y a un gros écart.
Après, il y a du cul, quoi. Donc le sexe, ça fait vendre.
Il y a écrit sexe en énorme.
Moi, je pense que il y a deux énormes seins sur la couverture
c'est
de
vrai.
Le Monde à l'envers.
C'est vrai, c'est
donc, il est vrai. Et c'est la même disposition.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a un spermatozoïde et une planète de l'autre côté. C'est tout. Mais les Grassés ont gagné, on nous dit dans le chat.
Moi, je dirais le sexe. Ouais.
Le sexe.
Et
sexe.
Je jouerais la contre-propale et je dirais le monde à l'envers.
Ok, ton courage n'a d'égal que terminer cette phrase à ma place. et c'est Dirty Biology, effectivement, qui a gagné. Bah ouais. Ils ont 10 600 ventes sorties de caisse. Je sais pas ce que ça veut dire. Quand on m'a dit ça, on m'a dit, tiens, c'est les chiffres sorties de caisse. J'ai fait très bien. Comme si je fais.
C'est les gens qui ont
acheté. Ouais, grave,
en effet.
Oui.
Ah oui, c'est ça. Vous avez raison. C'est pas le volume qui était commandé. Par les distributeurs, c'est vraiment ce qui est sorti des caisses. Et je crois que ça comprend Amazon également. Ouais. Donc 10 600 pour Dirty Biology, sexe en gros.
C'est
et Le Monde à l'envers a fait 6 800 ventes. Pour
ce
l'instant.
Qui en peu de temps est pas mal, hein, en vrai.
C'est quand même bien. Hein.
Elle vient juste de sortir en septembre. Donc, voilà, c'est un très bon démarrage.
Ouais.
Il nous en reste encore deux petites confrontations dans le chat. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Nous avons d'un côté, comme on peut, la BD de John Rashid. Qui est peut-être une de mes BD de youtubeur préférées. Elle, c'est absolument dingue.
Très belle BD.
Je passe le petit truc. Et en face, nous avons, donc c'est sorti en octobre 2019, et en face, nous avons Le Visiteur du Futur, le manga La Brigade Temporelle, sorti en 2016.
Ah, ouais. John Rashid, je pense.
Ouais, je dirais John Rashid aussi.
Et bah, vous savez quoi? Je vais encore jouer la contre.
Waouh!
Wow, parce que, bon, déjà, j'apparais dans ce manga, je vous le dis. Enfin, mon personnage.
Il est dessiné. On peut dire que tu es un personnage de manga.
La chance.
Je suis un personnage de manga.
Dans ma tête, tu seras désormais Flaubert, le personnage du manga.
Le célèbre personnage du manga.
Ton personnage s'appelle comment déjà?
Bernie. Non, en vrai, un peu à la manière de Noob, mais du coup, Noob, c'était pas ça tout à l'heure, mais beaucoup de conventions et dédicaces et un public très fervent du côté de François Descraques. Et mine de rien, comme on peut, et elle le mérite, c'est une BD un peu plus chère parce qu'elle est, elle est énorme.
C'est la plus chère. Mais... Il n'y a pas plus cher que cette BD-là.
Mais qui le mérite de malade parce qu'elle est énorme et vraiment, il raconte.
Et sèche,
ouais. Donc c'est vraiment bien.
Et alors, pour anecdote, comme on peut, c'est JR qui m'a expliqué ça, pas le photographe.
Ouais.
En fait, la BD, elle fait, je crois, 200 ou 300 pages. Et en fait, du coup, elle coûte genre 35 euros. Enfin, je sais plus le prix, mais en tout cas, c'est la BD la plus chère des YouTubers. Et du coup, ils vont la diviser en deux, en fait. Le tome 1 va devenir, en fait, le tome 1 et 2. Donc, ça va être un peu bizarre parce que quand ils vont sortir la suite, si vous avez acheté la première édition de Comme on peut, vous avez le 1 et le 3.
Okay.
Mais ça se suit. Donc voilà, ils vont diviser ça. Alors, ça, c'est des tambouilles que j'y connais rien. Quoi. Ouais. Et donc, vous dites plutôt La Brigade Temporelle, le manga pour Flaubert.
Moi, je dirais
Le
Temps Prêt.
Et Magla.
John Rashid, ouais.
Mais je sais que Comme on peut est quand même un succès. Hein. Enfin, je sais que...
Ouais. Et donc, nous avons 6700 ventes pour Comme on peut, qui est un petit peu devant Le Visiteur du Futur, qui a fait 5100.
Ah, c'est vraiment au coude à coude, par contre.
C'est serré.
Ouais. C'est au coude à coude. Après, Comme on peut, est sorti aussi bien après, mais en fait, non, il est devant, donc, dans tous les cas. Voilà. Et il y a eu plusieurs tomes aussi de La Brigade Temporelle, et je crois que François m'avait dit que ça marchait mieux par la suite aussi, parce qu'il a fait plus de dédicaces et ce genre de choses.
Okay,
il m'a dit qu'il avait vu une différence, en tout cas, dans les ventes, quand il avait commencé à vraiment faire les dédicaces.
Nous, avec David, c'est vraiment notre problème en ce moment, même si c'est un petit problème vu
David, le dessinateur de ta bande dessinée.
Pardon, excusez-moi, David Combet, le dessinateur de ma bande dessinée. C'est malgré il y a des problèmes évidemment plus graves liés au Covid-19, mais nous, c'est notre petit souci, c'est qu'on peut pas vraiment défendre la BD en dédicace, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est chiant parce que nous, on comptait beaucoup dessus. Et là, c'est vrai que c'est le truc qui est un peu relou, quoi, parce qu'on peut pas. Donc dès qu'on nous en met une, vraiment, on reste. La dernière fois, on a dédicacé à Lyon 6 heures, de dédicace. C'est très très long. On a dédicacé plus de 100 BD. On était mort de fatigue, mais au moins tout le monde est reparti avec sa BD parce que
incroyable.
C'est horrible, quoi, de pas pouvoir défendre un truc sur lequel t'as bossé 2 ans et demi. Donc voilà. Mais c'est vrai que les dédicaces, c'est super important. C'est super important.
Très impressionné parce que moi, au bout de 2h30, mec, c'est simple, je parle même plus la langue française.
Tu m'étonnes,
je suis vraiment, mais.
Bah ouais, terminé, mais t'es obligé de trouver des petits subterfuges. C'est pour ça que j'ai fait mon truc aussi de tour à vélo où je mettais des dédicaces planquées dans les BD. Ah putain, j'explique vite fait pour les. Mais en gros, j'ai mis des dédicaces planquées dans toutes les BD que je trouvais à Paris avec une dédicace, mais avec en plus une adresse mail, et les gens pouvaient nous envoyer un mail sur un mail lié à la BD, et David, le dessinateur, faisait une dédicace plus jolie, plus précise, avec moi, un truc plus personnalisé, vu que la personne nous donnait son nom et ce qu'elle voulait en dédicace. Donc ça, pareil, on en a fait encore une centaine comme ça, mais on est obligé de trouver des petits subterfuges, sinon en fait, on ne peut pas la défendre, quoi. Donc ça, c'est vraiment chiant. Toi, tu le sais, si tu l'as défendu partout, cette BD.
Ouais, ouais, pour moi c'est hyper important quand tu l'écris pendant des mois et des mois et que tu sais, tu regardes le découpage, le storyboard, le truc, la couleur. Moi, ça me tuerait de sortir le truc en mode oh, en fait, j'ai sorti ça, merci, au revoir. Je passe à la story suivante, tu vois, c'est pas possible. Pour moi, c'était vraiment un moment aussi pour. C'est un prétexte, tu vois, pour rencontrer les gens, pour la défendre. Donc, je suis totalement d'accord. Là, pour moi, c'est un gros drame là, de pas pouvoir faire les dédicaces. Je suis mais dépité comme Jaja. Et je vais te voler un peu l'idée, Flo.
Ah ben vas-y, moi je l'ai pas inventé, hein. je l'ai vu passer, je l'ai faite. Hein.
Je me doute bien que tu l'as volé. et je vais faire, donc le tome 3 de ma bande dessinée Roger et ses humains sort en novembre, et je vais probablement faire, on va voir si c'est faisable, parce que c'est encore un petit peu risqué, mais je vais faire un peu comme ce que tu as fait à vélo, mais dans toute la France en fait, c'est-à-dire faire un tour de toutes les librairies. Et de
excusez-moi
planquer
de n'avoir qu'un vélo, mais voilà. monsieur Yop,
un SUV. T'as pas un TGV.
Non, mais c'est trop bien, il faut faire ça, c'est trop bien.
Ouais, ça va me prendre plusieurs jours, et en fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé où, comment dire, je peux quand même filer un objet un petit peu différent des autres, quoi, et ne pas risquer de contaminer ou de tomber malade.
Bien sûr.
Du coup, voilà, ça sortira à la fin de l'année, cette petite technique. Dernière petite confrontation, voilà, c'est pour terminer en beauté. Nous avons Axolot, la BD de Patrick Beau, tome 1, qui est sorti en 2014, et La Petite Mort de Davy Mourier, qui est sorti l'année d'avant, donc en 2013.
La Petite Mort,
que...
non
Davy Mourier mort, ouais. a édité ta BD, juste littéralement.
Ouais, t'es un peu obligé, quoi.
Je sais pas ce que t'en penses.
Alors, Cyprien Yov, tu m'offres une perche magnifique.
Florent, Bernard,
David Combet a dessiné dans Axolot, puisque c'est un recueil d'histoires par des auteurs et des dessinateurs, et David avait raconté une histoire dans Axolot. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2, mais je sais qu'il a. Et c'est comme ça que.
Je vois pas sur la couve là.
C'est comme ça que mon éditrice Marion Amergagnan a trouvé son travail et nous a mis en contact. Mais je
dans
pense quand
BD,
même.
Axolot. D'ailleurs, il y a Adrien Méniel dedans.
Oui, complètement. C'est très drôle d'ailleurs ce qu'il a fait dedans.
Ah, c'est super.
Mais je crois quand même que c'est La Petite Mort. En tout cas, La Petite Mort, il y a vraiment un impact. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a des gens tatoués, il y a des gens. Enfin, c'est un vrai impact. C'est vraiment le étrange Noël de Monsieur Jack français, quoi. Donc.
Puis dessin animé après tout, quoi.
Exactement. Bah moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai fait une émote par rapport à ça parce que ça m'avait marqué à l'époque. Et je savais pas du tout que
La Petite Mort.
Ouais.
Ah, c'est fou.
C'est l'une de mes premières. Ouais. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. J'avais adoré. Je trouvais ça trop bien.
Étrangement, c'est Axolot qui est devant.
Ah ouais.
35 300 ventes pour Axolot tome 1 et 26 500 pour La Petite Mort tome 1. Moi aussi, j'étais étonné parce que. Alors, peut-être que ça a été vite réédité. Peut-être qu'il y a eu un autre tome qui a marché aussi. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, Axolot est devant. Et 35 000 ventes. Et même presque 27 000 pour La Petite Mort, c'est des gros volumes également.
C'est
un
très gros chiffre.
Bon volume.
Sachant qu'effectivement, dans Axolot, t'as aussi de la Rosta, quoi. T'as Boulet, t'as Marion Montaigne. C'est peut-être ça aussi qui draine un public, hein, c'est sûr.
Voilà, c'était le petit. Ah oui, je vois l'emote de La Petite Mort absolument partout sur le chat. Maintenant, vous savez tout sur le succès de la bande dessinée.
C'est bien, je sais où je me place maintenant, voir si c'est un fiasco ou pas. Je saurai.
On va te donner les chiffres. Tu sauras.
Je saurai grâce à toi, merci.
Alors, La Flamme, on est d'accord, c'est une parodie d'émission de télé-réalité, c'est ça ?
De Bachelor.
C'est ça, c'est même un remake français d'une série américaine qui parodiait la télé-réalité, le Bachelor. Voilà.
Dis-nous comment c'est passé pour La Flamme, parce que vous avez un concept qui existait déjà, donc une parodie du Bachelor fait aux États-Unis, produite par Ben Stiller. Toi, tu as scénarisé du coup la version française.
Exactement.
Vous êtes parti sur des personnages qui existaient ou vous avez, en mode, bah les couilles, vous prenez que le nom ?
Non, en vrai, Jonathan Cohen, qui est donc l'instigateur de tout ça, qui est sur toutes les affiches et sur toute la promotion, parce que c'est vraiment lui qui s'est battu pour avoir les droits, était fan de la version américaine. Et donc non, nous, on a vraiment repris les personnages, puisqu'on trouvait que c'était ça qui était intéressant, les personnages, mais en les adaptant un peu à l'époque actuelle. En gros, là, l'idée de La Flamme, c'est que c'est le Bachelor avec un personnage horrible, misogyne, stupide, un peu raciste. Enfin, c'est vraiment un Jean Dujardin dans OSS 117 ou un Will Ferrell dans Ron Burgundy. ouais. entouré de plein de meufs qui sont toutes fucked up, toutes aussi fucked up, plus, oui. plus fucked up les unes que les autres, pardon. Donc on a repris ces personnages-là, mais on les a un peu adaptés. Et puis aussi l'autre truc, c'est que la version américaine, c'était un format beaucoup plus court. Je crois que c'était 7 fois 7 minutes ou un truc comme ça. Et nous, on en a fait un 9 fois 26 pour vraiment que ce soit une série, pour que ce soit une série comme à Bachelor, quoi. Donc c'est pour ça aussi que la série n'est pas binge-watchable, parce qu'en fait, c'est insupportable à binge-watcher.
Okay.
ça se regarde vraiment comme une télé-réalité, et donc tu as besoin de pause. Et voilà, on a vraiment collé au plus près des codes. Mais on a un petit peu plus scénarisé ça quand même comme une série. C'est-à-dire que les trois premiers épisodes que vous pourrez voir ce soir sont très télé-réalité. Et après, il y a plus de place vu qu'il y a des personnages éliminés. Il y a plus de place pour que les intrigues se mettent un petit peu plus en place.
Voilà. Premier épisode très drôle d'ailleurs.
C'est gentil, Pierre. Merci beaucoup. Qui sera gratuit, disponible gratuit. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Oh, on s'en fout. Oh, qui regarde ? On n'est que 6000 après tout. ce sera sûrement sur YouTube, le premier épisode.
Trop bien.
À terme. Okay, voilà. Ouais. Cool. Comme ils avaient fait avec Validé, l'idée c'est de le faire avec, aussi la flamme.
Ça t'a plu le travail d'adaptation finalement ?
Ouais. En fait, ce qui est difficile, c'est OK, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, mine de rien, et surtout qu'on est trois à l'écriture, donc on a pas tous les mêmes sensibilités. Donc,
c'est génial de prendre un concept de Ben Stiller et de faire non, ça en prend pas, hein. C'est pas fou.
Non, ce qui nous sauve, c'est que c'est une série qui a plus de 10 ans. Donc c'est pas tant qu'on n'aime pas, c'est juste que c'est très démodé, il y a même des blagues.
Ce serait marrant de... Non mais cette blague sur MSN, il faut la garder les gars, ça défonce, elle est bien, contractuellement on doit la garder.
Tu plaisantes, mais par exemple il y a des refs très ricaines sur le rodéo, tout ça, bon bah nous on a bougé sur autre chose. Tu vois,
quoi coup, mais fallait garder le rodéo.
Mais putain. Mais putain, ouais, il a pas gardé le rodéo, le connard.
On l'a transposé dans un bowling, hein, dis-toi. Non mais typiquement, il y a des personnages où il y a un humour où on est à la limite, tu vois, où on est sur un fil qui tangue un petit peu parce que ça se veut burlesque, ça se veut un peu subversif. Et des fois, la série que tu la regardes aujourd'hui, c'est un peu, c'est trop, tu vois, ça va trop loin. Et donc nous, on a essayé d'adapter ça tout en gardant ce côté subversif. Mais en essayant de l'adapter à l'époque actuelle et que ce soit drôle et intéressant. Voilà, par exemple, il y a un personnage aveugle. Dans la version américaine, vraiment, on se vautrait dans les blagues sur les aveugles. Nous, on le fait un peu, mais il y a un petit twist dans l'épisode d'après parce que justement, on joue avec ça. Donc ça, ce truc-là, c'est assez marrant à faire.
Et je me permets de divaguer, mais est-ce que vous avez déjà... en fait, ça me fait penser aux vannes qui, comment dire, dans les années 90-2000, tout le monde se tapait la main sur la cuisse en mode des grosses barres. Et en fait, et ça peut être parfois des œuvres que vous kiffez, et de les revoir ensuite 10, 20 ans après, et de se dire « ça, je n'approuve plus ».
La pyramide, déjà.
Ça m'arrive beaucoup de fois.
Pyramide. Le jeu télé Pyramide qui est absolument raciste et horrible.
Ah, je connais,
sérieux,
tu vois pas le jeu de Pyramide avec Patrice Lafont et Pépita?
Non, je me souviens plus.
Bah, je pense que le problème vient de Pépita.
Clairement Pépita.
Ah bah c'était en enfer, et tu regardes tous les shows télé d'il y a 10-20 ans, c'est un enfer sur terre, quoi.
Moi j'ai des œuvres que je kiffais à la base, tu vois.
Non mais moi c'est des œuvres que je kiffe encore, mais je reconnais que c'est terrible. Moi c'est la fin d'Ace Ventura. Ace Ventura,
c'est horrible.
J'ai pas revu la fin du 1. Et j'ai peur de revoir parce que j'adorais quand j'étais petite.
Non, le film est super, mais à la fin on part sur un délire, en l'occurrence extrêmement transphobe. Et il y a tout un truc, c'est dégueulasse, j'ai roulé une pelle à une meuf et en fait c'est un mec, et bon bref, tout ce truc là où vraiment il va jusqu'à brûler ses vêtements tellement ça le dégoûte. Et tu dis
c'est horrible.
Un petit peu loin quand même.
Un peu limite quand même.
Moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps La Tour Montparnasse Infernale.
Ah, et quand même, la communauté quand même asiatique doit beaucoup à Eric et Ramzy.
La communauté asiatique, et puis des répliques très courtes.
Ah, t'es pédé. T'es pédé.
Ouais.
C'est interminable.
C'est terrible.
Il le dure sur mes 5 minutes. Lui qui fait non, mais ça va, enfin c'est bon, tu vois.
Bon. Oui.
Et en fait, c'est.
Ah, faut remettre,
ça évolue.
Il faut remettre dans
mieux,
son contexte. Il faut remettre dans son époque. Voilà, malheureusement.
Ouais, t'as des films comme ça que tu trouves après sur Netflix et tu les avais vus quand t'avais 12-13 ans. Tu sais, je pense au En Cloque, Mode d'emploi, ou tous ces trucs de cette vibe, tu vois. Et j'avais réessayé une soirée. Je me suis dit, allez, je me regarde des petits films. Et j'étais tombée sur même Projet X. Et ça m'a
fait. Ah ouais,
j'étais.
Tu te rappelles ce qui allait pas?
Tout. Franchement, alors je me rappelle pas exactement parce que je suis vite partie, mais la façon des fois dont ça parle des meufs ou c'est sale, j'approuve pas du tout, c'est bizarre, la mentalité était pas du tout la même, hein.
Ouais, après, souvent, ça se cache derrière des. C'est normal, c'est des personnages, tu vois. Donc, c'est pas.
Des fois, c'est trop caricaturé, je trouve.
Ouais. Mais le bon côté, c'est que, voilà, il y a plein de gens qui prennent ça comme une censure ou une dictature. Mais en fait, ça ouvre à plein d'autres vannes. Moi, je cite, parlais de Brooklyn Nine-Nine, Pierre. Je trouve qu'ils amènent, du coup, plein de vannes qui n'existaient pas avant, de choses qui sont comprises dans la. Et qui sont quand même subversives. Mais qui sont complètement originales sur justement les couples homosexuels, tous ces trucs-là. Et d'un coup, tu as des blagues que tu n'as jamais entendues avant et qui sont grave marrantes.
Tu ramènes des gens dans l'équation, en fait.
Exactement.
C'est cool. Vu que là, c'était toujours centré.
Je pense que déjà à l'époque, on prend par exemple des blagues transphobes pour Ace Ventura. Avant, c'était un sujet qui n'était pas connu, tu vois.
Exactement.
Les gens qui changent de genre et tout ça. Et du coup, eux, c'était nouveau. Du coup, ils se disent, ah ben, on va se moquer de ça, tu vois. Mais c'est bon, 20, 30 ans s'est écoulé. Et maintenant, c'est plus nouveau du tout, en fait, tu vois. Et du coup, c'est maintenant le fait d'assumer des nouvelles personnes, tout ça. Et là, par contre, on arrive sur des nouvelles vannes. Mais je pense qu'en vrai, ce qui est nouveau pour nous aujourd'hui, pour eux, genre les blagues transphobes, c'était nouveau pour eux aussi, tu vois, je pense.
Bah, ça évolue. Hein.
Mais après, ce qui change aussi dans la création, c'était toujours, on va dire, l'homme blanc qui faisait les vannes. Donc, du coup, c'était toujours très centré sur eux et centré tout ça. Et maintenant, vu qu'on ouvre un petit peu, que ce soit aux meufs, aux personnes concernées, aux personnes de couleur et tout ça, bah, il y a plus de blagues. Et ça qui est bien. Et au final, je vois pas trop de bien-pensance, mais je vois vraiment des gens rajoutés à l'équation. Et ça qui est trop bien, en fait. Je trouve que le champ de blagues possible et encore plus ouf tant qu'on laisse la parole aux concernés, et ça qui est important en ce moment, je pense.
Ouais.
On n'a jamais eu une discussion aussi sérieuse. Donc...
Non, mais c'est vrai que l'écriture de façon de comédie, c'est un travail d'équilibriste et des fois tu te casses la gueule, mais tu remontes et voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut y aller, il faut se poser des questions et tu tapes pas toujours juste, mais voilà, c'est pas grave quoi. Il faut trouver des blagues et des nouvelles façons de faire des blagues, voilà. Après, je dis ça, mais La Flamme, c'est vraiment une série un peu trash.
Oui.
Et voilà, s'il y a des fans, alors je dis pas que c'est aussi bien qu'OSS 117, mais on a un peu ce côté-là d'un
perso. Tu viens de le dire.
Je l'ai entendu.
Je l'ai entendu moi aussi.
Mais on est sur ces caractéristiques de perso qui dit des horreurs infectes. Et voilà. Mais bon, j'espère que ça plaira aux gens.
Vous, quand il y a un truc que vous kiffez qui est adapté dans une autre langue, ça vous fait mal, ça vous fait. C'est moi, à chaque fois, je le vis comme un drame un peu, tu vois.
Moi, je trouve ça rigolo.
Je pense à Old Boy, qui a été
ce
film coréen qui a été, tiré d'un manga.
Ah oui.
Qui a été ensuite fait aux États-Unis d'Amérique.
Spike Lee.
Et là, il y a Utopia, une de mes séries préférées sur la planète Terre, qui est une série anglaise, et ils la refont aux États-Unis.
Ouais.
Ça devait être David Fincher en plus.
C'est quoi Utopia?
C'est des gens qui sont fans d'une BD un peu obscure et d'un coup ils sont poursuivis jusqu'à la mort par des mecs qui veulent les buter.
Ça m'intéresse beaucoup.
C'est mal pitché, mais c'est
non,
le premier épisode.
Je suis intéressé.
Non, mais après les Américains, c'est parce qu'en fait ils ont pas. Moi, on m'avait expliqué, ils ont pas le concept de sous-titres. Mais ce qui est pas du tout un truc pour me foutre de leur gueule. Mais en fait, le sous-titre.
C'est en anglais.
Utopia, c'est en anglais?
Oui.
Ah, autant pour moi. Désolé, les States.
Est une série anglaise.
Mais c'est comme Skins, je crois que t'as.
Ouais, la version.
C'est ça. T'as la version US et UK. Ouais, pareil.
Mais parce que je sais que, par exemple, Old Boy, tu citais, mais même Intouchable, ou enfin tous les remakes américains,
The Ring, ça m'a fait mal.
Mais parce qu'en fait,
The Ring, ça fait mal.
Sous-titre, ils ne comprennent pas le concept de lire sous l'écran et tout, et donc du coup, le concept de doublage n'est pas très clair non plus chez eux. Et donc,
deuxième
quote
de Flaubert, les Américains ne savent pas lire. Donc, La Flamme est meilleure que
les sous-titres.
Américains ne savent pas lire un sous-titre. Ils ne savent pas faire ça.
Non, mais le sous-titre et le doublage, parce que non plus, ils ne doublent pas les films. Et du coup, ils les refont directement. Voilà, c'est comme
ça que Parasite, ça avait fait le buzz.
Exactement.
Parce que les Américains avaient la flemme de lire les sous-titres et tout ça, et ils ne comprenaient pas ce que ça foutait aux Oscars. Parce qu'ils avaient la flemme de lire, quoi.
Oui, t'as raison.
Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des films étrangers comme ça dans des grands sites, enfin dans des cinémas de, comment dire, ce qu'on appelle des multiplex, voilà, des cinémas où il y a plein de salles.
Attends, dans le chat, on nous sort des films là, mais je sais pas si c'est des blagues ou pas.
Bienvenue chez les Ch'tis,
il est jamais sorti celui-là au final.
C'était en pourparler, mais il ne s'est jamais fait.
Ouais.
Cool. Ça devait être avec Will Smith qui se retrouve au Texas, je crois que c'était un truc comme ça.
Ouais, avec des rednecks.
Le remake de Taxi avec Jimmy Fallon.
Et Queen Latifah, bien sûr. Ça existe.
Je suis nul en.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tu veux voir ça?
Sachant que le meilleur reste pour moi le remake des Visiteurs avec quand même Jean Reno et Christian Clavier. Ça, c'est incroyable.
Le remake, c'est le 3 pour nous,
bah, c'est pas le 3, c'est les Visiteurs en Amérique. À la base, nous, on appelle ça les Visiteurs en Amérique, mais c'est le remake des Visiteurs pour les États-Unis et avec Jean Reno, Christian Clavier et Christina Applegate qui était dans Mariage
de deux
enfants.
Sorti en France,
ça? Bah, du coup, oui, c'est sorti en France sous le nom de les Visiteurs en Amérique. Et ce qui est incroyable, okay, c'est que le gars qui a demandé ce remake, c'est John Hughes, qui est le gars qui a quand même créé Maman, j'ai raté l'avion, Breakfast Club, enfin plein de films cultes, quoi. Parce qu'en fait, il avait vu les Visiteurs dans l'avion, il s'est dit, mais ça, les Américains, il faut qu'ils le voient.
Et hey, d'ailleurs, Florent Bernard, toi qui bouffes de la péloche.
J'adore ça, je me nourris plus de ça que de nourriture.
Ouais, c'est ça. True Lies, c'est avant ou après La Totale?
Ah non, c'est un remake adaptation de La Totale.
C'est ouf, ça.
Un remake de La Totale.
Donc, t'as Schwarzenegger qui joue le rôle de Thierry Lhermitte, quoi. C'est ça qui est fou, quand même.
Exactement. Exactement. Mais ça, c'est un vrai. C'est aussi les Américains, ils ont un autre truc, en plus d'être illettrés, comme je le disais plus tôt. là, ils ont un vrai truc, c'est ils ont peur qu'on les attaque pour plagiat. C'est un truc que disait Francis Weber, qui a écrit La Chèvre, qui lui
pas tous les comiques américains, visiblement.
Oh, ça dénonce ce soir.
Il tire à balles réelles. Non, mais en gros, Francis Weber, qui a écrit La Chèvre, Le Dîner de cons, tout ça, lui, quasiment tous ses films se sont fait remaker aux États-Unis. Et il disait, en fait, là-bas, c'est aussi parce qu'ils ont peur du plagiat. Et un jour, il s'est fait remaker un de ses films, alors que c'est l'idée, le gars avait eu l'idée avant de voir le sien, mais juste vu que ça ressemblait un peu, les studios ont dit non, 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 on va acheter les droits, et comme ça, vous ne nous ferez pas de procès. Et c'est par peur de se prendre des procès, en gros.
Donc pour l'instant, Weber procès... est très content de cette attitude américaine.
Pour le moment, il est gagnant. Pour le moment, tout se passe bien.
Ravi. Ouais. Donc du coup, ça fait des années qu'on discute avec Flaubert pour trouver une anecdote, un truc raconter ensemble. Y a-t-il, du coup, s'il te plaît, Flaubert, un moment une situation dans laquelle tu t'es retrouvé et tu t'es dit, j'aurais dû refuser cette invitation?
Oui, alors quand on en discutait, je me souviens, c'était en 2016. Quand on discutait de ce thème, on liait ça aux professionnels. Alors bon, j'ai aussi un podcast, que j'ai énormément d'actualité. Je ne sais pas si je vous en ai parlé.
Donc j'en ai. T'es devenu la pire personne.
Je suis devenu. J'ai un documentaire sur Netflix. Non, j'en parle pas.
Ouais, ouais.
Non, mais en gros, ouais, j'en ai peut-être déjà parlé dans ce podcast. Moi, c'est surtout les trucs professionnels. J'en ai deux. Je vais faire un très court déjà, et après on verra si on a le temps pour l'autre. Mais on était invité avec Golden Moustache à l'époque au Festival des Arcs. Ce qui est déjà n'a aucun sens, parce que les Arcs, c'est vraiment un festival du cinéma européen un peu indé. Et le fait qu'il y ait des gens d'internet, même si Golden Moustache, on avait un petit peu le truc de on fait des courts-métrages, mais en vrai on était des gens d'internet, surtout qu'à l'époque on avait été invité, je crois que Golden Moustache avait 2 ans, moi j'étais déjà plus dans Suri 4, on devait avoir, ça devait 2 ans d'existence. Donc on y va, et pour la plupart des gens c'est surtout
et vous deviez faire un truc, une vidéo.
On devait faire une vidéo là-bas. C'était le deal, on profitait du ski et on faisait des vidéos là-bas.
Ça, si vous ne savez pas comment acheter des youtubeurs, écoutez ça. Vous invitez au ski,
uniquement
ils font une vidéo.
C'est
simple.
Uniquement
y a
ça.
Il n'y a pas d'argent.
Ah bah ça,
pas
à l'époque, c'est non, sûr, on n'allait pas être payé. Ça, c'est sûr. Mais en gros, voilà, on était invités aux frais de la princesse. On avait quand même notre chambre d'hôtel et tout. C'est très cool. Allez. Et une fois là-bas, on arrive et donc, en vrai, on n'a pas trop d'idées de sketch. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a accès à rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne va même pas voir les films. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et là où on est con, c'est qu'on aurait dû dire, mais on aurait dû faire le sketch avant. Et après, on va faire du ski. Et puis c'est bon, tout va bien, tu vois. Ouais. Donc, et on tourne 2 plans dans la neige, histoire de dire, bon, bah voilà, on a fait un truc, mais voilà.
Donc, on a fait un Vine. Merci pour la chance.
Wow,
à l'époque, on aurait pu vendre un Vine. On aurait pu vendre un Vine à l'époque. On y va et zéro idée, mais vraiment très peu d'idées.
Ça, c'est très angoissant. Hein. C'est, je vois ça très bien ce genre de truc.
Mais ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Et moi, en plus,
vous venez,
alors,
vous profitez en échange, vous écrivez un petit truc. Mais
ça,
c'est
moi,
le meilleur moyen d'avoir la pire vidéo.
La pire vidéo. Souvent, elles sont supprimées d'internet peu de temps après. Et moi, je suis très mal à l'aise avec ça. Je sais pas le faire. La preuve, j'en ai fait très peu dans ma vie parce que c'est toujours nul. Ce n'est pas par déontologie. J'adore l'argent, mais vraiment, je suis nul à ça. Donc, j'en ai fait pas beaucoup. Donc là, on essaie de faire ça et on se dit, ce qui est vraiment toujours l'idée de la personne qui n'a pas d'idée, est hey, on n'a qu'à faire des gars d'internet qui vont dans un festival et qui savent pas ce qu'ils font là.
Mais non, c'est méta.
C'est méta, parce que...
Donc pour les gens qui savent pas, l'écueil des écoles de cinéma, c'est souvent de faire un court métrage sur un mec qui veut faire un court métrage.
Et c'est souvent raté en vérité.
Ne faites pas ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, le seul truc qu'on nous dit, donc on n'a accès à rien, pas à des décors, on n'a pas le droit de filmer dans les stations là où il y a du ski parce que c'est dangereux, donc on peut tourner en gros dans les chambres d'hôtel.
Oh, bah non, yes,
on peut pas tourner, même dans le hall de l'hôtel, on n'a pas le droit, donc on peut tourner absolument nulle part. Je vous raconte ça de mémoire, hein. Peut-être que les gens de Guadeloupe me diront, c'était pas exactement ça. Toujours est-il que le seul truc qu'on nous autorise, on nous dit, Louise Bourgoin est invitée d'honneur du festival, elle adore ce que vous faites, donc il y a moyen de tourner avec elle. Okay.
Donc vous ne pouvez rien filmer sauf Louise Bourgoin sauf et Louise des chambres d'hôtel.
Et moi je suis méga fan.
On dirait le début d'un rêve un peu érotique.
Mais moi je suis méga fan de Louise Bourgoin. Je la trouve déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui maintenant que j'ai vu Hippocrate. Mais à l'époque j'étais déjà fan. Et je me dis, bon, en vrai c'est trop cool. Miss Météo, grave de l'humour, elle fait des persos et tout. Si elle aime bien ce qu'on fait, c'est cool, tu vois. En plus, on est dans un côté faux docu. Donc on peut faire un truc un peu à la Platane, The Office. Elle nous envoie chier, machin et tout. On arrive, les gars de Golden Moustache, on est 6.
Je suis
vraiment
jamais à l'aise, moi. Je sais pas
six,
pourquoi.
6 puceaux à un bal de promo. On la regarde de loin et on se dit qui va lui demander, qui lui parle, machin et tout.
C'est à vous de négocier en plus.
C'est-à-dire que le gars qui nous a dit que vous pouvez y aller n'est pas là.
Ah non, mais c'est quoi cette douille?
Et qu'on la chope, on lui propose le truc juste à la fin d'une projo. Donc elle est dans les pires envies. Bon, bref. Ouais. Mais on nous dit, vous inquiétez pas, elle est prévenue, elle est fan de vous. Donc il n'y a pas de souci. Mais. Elle vient pas nous voir, mais on se dit peut-être juste, voilà, elle nous a pas reconnus, peut-être qu'elle est fan de Suricate et pas de tout Golden Moustache, bon bref. Donc on se regarde, et exactement comme un bal de promo, c'est le plus beau gosse qui y va, c'est Lucien Mène, qui dit, bah allez, vas-y, je vais lui parler, machin et tout. Il y va, et on le suit derrière, donc déjà, quand tu te mets dans sa tête à elle, la pauvre Louise Bourgoin, c'est horrible. T'as un gars qui fonce vers elle avec 5 autres derrière. Ils ont tous des
creeps.
C'est exactement ça. T'as moi, Méniel, Valentin, Vincent. Donc on dégage pas les gars les plus sûrs d'eux. Enfin, tu vois, on dégage pas un aura vraiment. On n'est pas les quarterbacks, tu vois. Donc on arrive et vraiment Lucien dit voilà, c'est un sketch, machin. Golden Moustache, il paraît que tu connais. Non, c'est sa seule réponse pour le moment. Non. Donc on fait. Ok, donc du coup, en gros, le sketch, on le divise. En fait, on fait une vidéo pour le festival. Donc là, d'un coup, tu commences à expliquer ce que tu fais. On passe pour des étudiants vraiment qui ont trouvé une caméra par terre et qui essayent de gratter.
Oh, et qui font, je le rappelle, une vidéo sur des gens qui cherchent à faire une vidéo.
Ouais, rien de fait envie. Et on lui dit, elle lui explique, Lucien lui explique, il fait non, mais donc voilà, en gros, on imagine qu'on te propose un sketch et tu nous dis non, mais et tu nous envoies un peu chier, c'est un peu marrant.
Pour l'instant, si vous aviez filmé ce moment,
ça aurait été
tout marché.
Ouais.
En fait, et c'est ça la blague de l'anecdote, c'est-à-dire qu'on lui dit la scène, en gros, c'est on te propose le truc et tu nous envoies chier. Et elle nous dit, ouais, bah, on fera peut-être ça plus tard. Et elle s'est barrée. Donc elle nous a fait ce qu'on attendait de la scène, elle nous a envoyé chier, mais on ne l'a pas filmé. Et c'était assez horrible à vivre de se prendre. Et je me souviens vraiment de le sourire faux de Louise Bourgoin, qui est une très bonne actrice, mais qui l'a. A vraiment laissé passer toute la haine qu'elle avait pour nous. Et voilà. Et donc, du coup, énorme râteau. Et on s'est dit, mais évidemment, le prod, on lui a dit d'ailleurs, mais elle ne nous connaît pas du tout, machin et tout. Il fait, non, mais je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Donc, il nous a menti, hein, tout bonnement. Le gars nous a menti.
C'est du mensonge. Non, mais.
Un mensonge éhonté parce qu'il voyait qu'on tournait rien. Donc.
En même temps, vous aviez que les chambres.
On avait que les chambres, c'est vrai. Et donc, voilà.
Une humiliation. Non, mais peut-être plus tard, mais. Ça sent tellement mauvais. Quoi,
ah, bah le peut-être plus tard, tu sais que c'est jamais de la life.
C'est mort, quoi. C'est clairement mort.
Si on vous dit peut-être plus tard, cherchez pas à la durée de temps. C'est plus l'infini, dans tous les cas.
Je me souviens vraiment de. Et Pierre voit de quoi je parle parce qu'il a beaucoup fréquenté aussi Lucien Mène. Mais Lucien a vraiment fait un. Pas de soucis. Vraiment, il a. Allez, on laisse tomber.
Sale-toi arrière, au revoir.
C'est suffisamment humiliant pour tout le monde. Donc, allez.
À bord de Michel.
Ouais, ça fait partie. Quand c'est avec des gens un peu connus, c'est encore plus humiliant. Parce que tu les connais et eux te connaissent pas. Et tu te dis, ça y est, je suis devenu une merde jusqu'à la fin. Alors qu'elle a sûrement, évidemment, oublié notre existence à nous tous.
Non, elle regarde 301 vues là, elle s'en rappelle. Non, c'est terminé.
Moi, j'ai elle et Guillaume Canet avec McFly et Carlito. C'est les deux qui nous ont vraiment fait arrêter. Arrêtez de nous parler. Arrêtez.
Mais,
ah, ouais.
Mais il était fatigué.
Tu parles du live?
Le live qu'on avait fait avec le Maradon. Où Guillaume Canet a fait un jeu d'Adrien Méniel, c'était un jeu d'Adrien Méniel, mais je participais. Il n'avait pas du tout envie de jouer, et vraiment,
Très mauvais joueur. Ouais, ouais.
Je me rappelle très bien de ce moment.
Il a vraiment fait l'équivalent de allez, ça me saoule. Allez.
En fait, le jeu, il avait du mal, c'était compliqué,
ça buguait.
Ça buguait. Et du coup, il commençait là où normalement un jeu c'est pour s'amuser, lui, il commençait à être agacé.
Parce que compétiteur et bug, énormément de bugs, et donc ça le saoulait de ouf. Et nous, du coup, on faisait un peu des vannes genre ah Guillaume, t'es mauvais joueur et machin. Et en fait, clairement, ça ne l'amusait pas du tout. C'est assez marrant.
On nous dit dans le chat, au moins t'as vu Louise. Non, mais ça marche pas comme ça, les gars. Quand tu cherches à voir quelqu'un, c'est pas dans les pires conditions. Si on te dit, tu peux rencontrer Jim Carrey, mais il te crache à la gueule. Et il te dit, c'est quoi ton prénom? Je te déteste. Je suis pas sûr.
Je préfère ne pas le rencontrer.
Ça marche pas comme ça. Est-ce que, Magla, toi, t'as une petite une invitation que tu aurais dû refuser, peut-être?
Alors, elle remonte à il y a 50 ans, quand j'étais enfant. quand je n'étais qu'un bout de chou, parce que sinon non, j'ai pas trop d'invitations. En général, je refuse direct quand je sais que ça pue un peu du cul.
Putain, mais t'es trop forte.
Moi, je ne sors jamais.
J'ai tellement été dans des guet-apens, et tellement que je m'y suis habitué. J'ai fait bah ouais, c'est ma vie. Regarde autour de moi, c'est tout. Le chaos. Hey, les gars, ça fait 10 fois.
C'est le chaos. Zen.
Regardez,
tu vois, condamné
avec le petit mug 300 000 vues avec le feu autour. This is fine.
Ouais, non, j'ai vu pire, les gars. Tu vois.
Mais je pense que c'est à cause de ce que j'ai vécu il y a donc 50 ans qui a fait qu'après je me suis méfiée de tout. C'était quand j'étais en primaire et il y avait ce qu'on appelait les classes vertes. Alors je sais pas si vous en avez tous fait.
Bien sûr.
Moi non, mais je vois bien sûr ce que c'est.
T'as pas fait de classe verte?
Non.
Pas ouais, j'avoue, pourquoi? Bah t'as eu raison.
Classe verte, c'est quoi?
Il était déjà dans le vert.
Faire un truc.
Non, tu peux partir une semaine, enfin une sorte d'intégration avec ta classe, tu vois, et tu pars une semaine avec tes activités matin, midi et soir.
Pas, j'en ai pas souvenir.
T'étais déjà dans le vert.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, ouais.
Oui, nous on appelait ça l'école.
C'est ça. T'étais ouais. déjà dans la classe verte en fait. Et bah du coup, on devait partir en classe verte et j'arrivais toujours à les esquiver parce que quand j'étais petite, j'étais très timide et je n'aimais pas me mêler aux gens. Moi, quand c'était la récré, je restais dans la classe et je dessinais des dragons, tu vois. Genre, je faisais que ça. Donc, yes. Je n'aimais pas les gens.
T'étais taillé pour Twitch, c'est incroyable.
C'est fou, ouais. Hein, j'étais vraiment très sociable. Je dessine des dragons maintenant sur Twitch, très bien. Et du coup, ma mère n'avait pas réussi à me faire un mot d'excuse pour que je n'aille pas à la fameuse classe verte.
Ce serait génial, honnête, déteste les gens.
Elle n'aime pas les gens, elle ne veut pas y aller. Sachant que ma mère m'a toujours fait des mots d'excuse pour que je rate l'école, le collège, le lycée, etc. Maman, je t'aime. Et du coup, bah, j'arrivais.
Parents, jamais de la vie.
Ah non, moi, ma mère, elle me laissait pour qu'on regarde des films ou que je joue aux jeux vidéo ou autre. Enfin, elle s'en fichait hein, complètement. Et ça n'a pas empêché que je fasse des études après. Comme quoi. Ne faites pas ça. Et du coup, cette classe verte, je l'avais pas esquivée. Alors, je crois que je sais plus où c'était. C'était un truc genre peut-être La Rochelle ou autre, mais on était dans un grand domaine avec du verre et tout. Déjà, le bus, c'était super mal passé. J'étais toute seule, j'étais pas bien. Et j'arrive dans un grand dortoir où, avec tous mes petits mates de l'école, et j'étais tellement stressée que je suis partie me cacher dans les toilettes que je n'arrivais pas à ouvrir, et il était 17h, je me suis pissée dessus et tout a coulé dans mes petites chaussures.
Alors pour l'instant, Magla, t'es un animal pour l'instant. T'es dans un coin, tu te pisses dessus, pour l'instant il n'y a aucune différence avec un chiot que tu viens d'acheter.
C'est vraiment clairement comme ça, un genre, chiot. Bon, allez. J'étais derrière la porte, j'étais tellement stressée, je voulais pisser, j'étais pas bien, et du coup je me pisse dessus parce que j'ose pas appeler quelqu'un parce que j'étais trop timide, en mode oui, je cherche les autres toilettes. Du coup je me dis merde, je me suis fait pipi dessus, il faut que je rentre dans le dortoir et il y a tout le monde. Donc j'essaie de.
Je comprends pourquoi t'as plus rien accepté derrière.
Plus jamais rien. Mais
le truc avec les gens, j'arrête.
Non, plus jamais. Je rentre dans la chambre, je me change vite fait, etc. Dans la chambre, dans un coin, genre en mode vraiment animal penaud, en mode oh. Je
comment
cache
tu changes tes fringues qui puent la pisse en scred.
J'étais dans mon lit. Je me mets dans le lit. Je change, tu vois.
Ouais, comme quand tu mets un maillot de bain à la plage.
Exactement. Sauf que t'as pas de lit à la plage. La plage, mais. Et du coup, je mets tout dans ma valise cachée. Et sauf que j'avais pas capté que les surveillants, etc., allaient sûrement retirer nos trucs de valise pour les mettre dans
pour
les...
Pour renifler s'il y a pas
de renifler parce qu'elle a pissé dans les placards, etc. Et du coup, je passe une nuit. Alors, ça devait je me rappelle plus, mais ça devait puer la pisse dans la valise.
Oui,
tu vois,
la grande chance.
Clairement. je fais ma petite nuit, je vais le matin, je parle à personne, alors que j'étais ultra impressionnée. Et vers 14h, j'avais acheté un sac de bonbons. Avant, ma mère m'avait dit, t'achètes un sac de bonbons. Tu vois les grandes filles où tu peux faire des Scooby-Doo avec et tu les bouffes. Et tu les donneras à tes copains, comme ça, tu te fais des amis. Alors, on m'a racketté.
Oh là là. L'enfer sur terre.
J'en ai même pas eu un seul pour moi. Donc j'étais ultra triste et j'étais vraiment pas bien. Et là, je retourne dans la chambre, il y a un surveillant qui me chope, qui me fait « Nous devons parler, j'ai trouvé quelque chose dans ta valise.
» Oh non. Pour l'instant, tu t'es dit « Il y a rien qui va là. »
Il n'y a rien qui va. Et du coup, bah, ils avaient trouvé mes vêtements pleins de pipi et ça avait taché tous les autres qui étaient au-dessus. Et bah, il y avait d'autres gens autour et donc les gens l'ont su et j'ai passé la pire classe verte de ma vie.
Voilà. Les gens, ils ont été méchants avec toi, les kids, genre la pisseuse et tout ça, ils t'ont insulté.
Ouais, ils m'appelaient le pipi.
Pierre, il veut la suite, lui, il veut le truc.
Non, mais là.
Ils disaient, hey, le pipi, hein.
Oh. Donc, ça, mes enfants sont formidables.
C'est génial. Voilà, donc après, j'ai plus jamais rien accepté et ma mère m'a encore plus fait skip tous les trucs après. Tous.
Ah ouais.
Voilà. Ah, la frustration.
Moi il me serait arrivé un truc comme ça, mes parents ils ont fait ah ouais, c'est la vie. Oh, non, j'ai
c'est terrible.
On va les faire grandir le mioche là, il me pète les couilles, tu vois.
Ah non, j'aurais dû refuser ça, j'aurais dû faire genre j'étais malade, enfin c'est pire expérience. Je m'en rappelle, je devais avoir 9 ans et ça m'a vraiment traumatisé.
Ah la vache.
Est-ce que Pierre, t'as eu un petit trauma où tu t'es dit je veux pas être ici?
J'ai déjà raconté, je sais plus. Enfin moi, donc c'était pour, on va dire, l'anniversaire du cercle naval de mon grand-père qui travaillait dans la marine et tout ça. Et bref, chaque année, il y a des festivités où on invite des gens dans une salle des fêtes avec tous les petits-enfants, des gens de la navale là. Et bien évidemment, il y avait un clown qui commençait un peu à parler à tous les enfants. Enfin, ça commence comme ça, c'est un peu bizarre.
Okay.
Mais non. Et voilà, et je sais pas pourquoi. Non, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Flan ? Non, rien.
Non, rien, rien. S'il est payé pour ça, ça va. Hein.
Ouais, ça va. Et en fait, le mec n'était pas clown. Non, non. Et donc, je sais pas pourquoi, et il a commencé à me kiffer, et moi, j'ai dû commencer à voir qu'il offrait des choses, tout ça. Et j'ai commencé vraiment à faire mon énorme susboule, parce que j'ai vu qu'il y avait des espèces de gros trucs Kinder à gagner, et tout comme ça. Et je commence à faire mon lèche-cul, genre, oh là là, j'aimerais trop être sur scène, être un clown et tout ça, nanana. Donc ça, c'est la première partie, sauf au moment où arrive le spectacle du clown. Et donc, le clown monte sur scène, il fait son numéro, ha ha ha. Je hais les clowns. Hein. Et il dit à un moment, faisons monter un enfant sur scène.
Aïe, aïe.
Et cet enfant était bien évidemment moi.
Oh, putain.
Je l'avais tapé dans l'œil. Et,
dans l'œil du clown.
Et oui. Et donc du coup, il me fait monter sur scène. Et le numéro était un numéro d'instrument avant apparemment. Et il me tend un énorme trombone. Donc voilà, un espèce de trombone, mais vraiment beaucoup trop grand. Moi, je pense que je devais avoir 8-9 ans, un peu comme Magla et tout ça. Et il me demande, souffle dans le trombone. Et donc, je ne sais pas c'était quoi le but, mais la seule chose qui est sortie de ce trombone, ou je ne sais pas quoi, c'est toute la morve de mon nez qui s'est répandue sur mon visage devant un parterre, je pense, de 200 à 300 personnes avec la chaleur des projecteurs.
Que des gens qui ont vécu la guerre, visiblement.
Et donc, j'ai vraiment toute ma morve qui coule le long de mes joues. Et là, je commence à friser. Et je ne peux rien faire. Et je reste comme ça. Il ne se passe rien.
Oh non, chaton.
Et je contiens mes larmes. Et
la morve.
De morve. C'est de larmes morve. De morve.
Et là, il y a un gros malaise. Il y a vraiment le clown qui me pousse vers la sortie. Genre,
tu fais,
oui, allez, bon. Énorme merde.
Mais les adultes sont horribles. Ça devait être un mono de Macolo. Hein.
Le clown me gifle.
Et je sors vraiment walk of shame de la scène et je sentis un moment de malaise et de flottement horrible. Et ça m'a traumatisé à vie de la scène.
Ah bah ouais.
Et j'ai réussi à combattre.
J'ai envie de voir la scène d'après où t'as le clown qui est à moitié démaquillé, assis à côté de toi et qui te regarde premier Doug en mode alors, comme ça, tu vas être clown.
Non, c'est... jamais.
Et toi qui es là dans toute ta dépression, je voulais juste un Kinder Maki, frère.
Tu crois que je vois pas ce que t'as essayé de faire? Tu crois que je vois pas ce que t'as essayé de faire? T'as essayé de me doubler, mon pote. C'est genre les affranchis.
C'est le karma, ça.
Les affranchis, mais sur les clowns.
C'est la fin de Whiplash, tu sais, où genre je te fais monter sur scène et je suis Billy.
Ouais, je me suis retrouvé avec une plage de la mort dans mon lit.
Et du coup, ta haine des clowns, ça vient de là?
Et oui, et je suis devenu le Joker. Et on a fait un film sur moi. Voilà, tout simplement. Et j'ai été récompensé aux Oscars.
J'ai envie de rebondir sur des anecdotes de quand t'es gamin et c'est de la merde, c'est tout ce qui t'arrive. Parce que un truc, mais enfin, c'est pas humiliant ou quoi, c'est juste un moment nul et ça va te plaire, Flaubert. C'était au Puy du Fou.
Ah,
c'est une fois dans ma vie au Puy du Fou.
On les embrasse.
C'est simple. C'est oui. simple, j'ai aucun souvenir du Puy du Fou, si ce n'est un truc, c'est qu'il y avait des sortes de saltimbanques dans les rues et tout, et il y a un mec, une sorte de, d'animateur, je ne sais quoi, qui faisait du jonglage, et qui se met derrière moi, et il me dit « vas-y, jongle, je sais pas quoi », et en gros, je devais faire ça, lui ce qu'il voulait, c'était que je fasse ça avec mes mains, et lui il bouge les boules au-dessus de ma tête, tu vois.
Ah oui, ok.
Ok,
okay. okay.
Ça okay. Déjà, je suis stupide, mais quand j'avais 9 ans, t'imagines bien. okay. J'attrape les boules, je fais OK, tu veux que je. Il dit ouais, tu vas jongler. Je fais OK. Je veux jongler. Et lui, il veut pas. Il veut que lui utilise ses mains. Bref. Et c'était le moment le plus nul de ma vie avec un adulte. Où je dis, là, je fais, mais ça n'a aucun sens ce que tu veux faire.
Les gens vont voir.
Je voulais absolument avoir ces.
Non, tu mais vraiment jongler.
Personne va se dire que moi, enfant de 8 ans, j'arrive à faire ça. Qu'est-ce que tu
essayes de faire? Il n'y avait rien qui allait. Et j'espère clair. Juste que ce mec qui est adulte, qui du coup doit avoir 20 ans de plus aujourd'hui, j'espère qu'il a ce souvenir aussi gênant de... que moi que j'ai. Et qu'il est là, genre putain, mais ce gamin, il voulait pas se laisser faire.
Il a rien compris.
Putain, mais qu'est-ce qu'il est con, celui-là.
Donc voilà, si, t'imagines que si on me dit, ah, le Puy du Fou, tu as été, t'en penses quoi? Bah, je dirais ça. Je dis, bah, il y a un mec qui m'a presque fait du harcèlement pour qu'il ne voulait pas que je joue. Bref, voilà.
La tristesse.
Le bad buzz.
je pense qu'on va arriver à
1h40.
Bah, après, on a un peu de temps. Mais t'avais pas une autre anecdote, Flaubert?
Si,
mais il y avait la deuxième.
Elles sont moins.
Je suis sûr qu'elle est bien.
Elle est un peu métier, mais bon, elle est un peu marrante.
Fais nous rêver, s'il te plaît. L'invitation que t'aurais dû refuser.
L'invitation que j'aurais dû refuser. En vrai, j'aurais pas vraiment dû la refuser. Parce que peut-être que ça a joué avec aujourd'hui la chance que j'ai de travailler dans le milieu artistique. Mais sur le moment...
C'est ta rencontre avec Louise Bourgoin.
C'est ma rencontre avec Louise. Ariane, comme je l'appelle, vu que Louise Bourgoin est un pseudo. Non, la vraie histoire, c'est... on est en saison 1 de Suricate, puisque je suis dedans, donc ça ne va pas être la saison 2. saison 1. Donc, on est à Suricate, mais c'est la fin de la première saison. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte mental, du succès, les gens kiffent plutôt bien. Mais moi, je commence à être poussé doucement vers la sortie, d'accord? On commence un peu à plus trop s'entendre avec les gars sur ce qu'on veut faire. Mais c'est pas, le divorce n'est pas du tout entamé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait nos derniers sketchs. Il n'y a pas encore le super hangover et il n'y a pas encore syndrome post-rupture. Donc, on n'a pas encore fait les derniers sketchs, mais on commence à sentir qu'il y a une ambiance un petit peu électrique, disons. Bref, on est appelé à Canal+, parce que, mais ça on le saura, non, ça je le garde pour la fin. Je raconte même les histoires, je suis scénariste. Donc, on est appelé à Canal+, par Ariel Saraco. Pour vous expliquer, Ariel Saraco, c'est la directrice des programmes de Canal+. C'est grâce à elle qu'on a eu plein de gens très talentueux sur Canal. Elle a découvert plein de talents.
Directrice de la création. C'est elle, ça. Dès qu'il faut créer quelque chose.
C'est ça. Donc, ça va de Jamel à Edouard Baird et même plus récemment Serge Le Mito. Tout ça, c'est elle qui s'intéresse, qui donne des feux verts, d'accord? Donc, c'est quelqu'un d'éminemment talentueux et qui est à Canal depuis très longtemps, qui y est encore aujourd'hui. Ouais. Bref, on est appelé là-bas et nous, on est un peu. Moi, je suis un peu comme un ouf parce que c'est Canal+. Et aujourd'hui, pour les plus jeunes, vous en rendez peut-être pas compte. Mais quand j'étais, moi, quand j'ai commencé sur Internet, donc ça faisait, dites-vous que sur i4, ça avait 5 mois d'existence. Donc, tout ça était très neuf.
Putain,
encore.
Ça devait être tellement rapide, tout ce qui.
Sur i4, c'est très, très rapide. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très, très rapide.
D'autant plus rapide.
C'est d'autant plus rapide. Donc, on est appelé à Canal+. Et moi, il y a quand même un petit truc où, même si on n'a rien à proposer à cette dame, je suis comme un ouf d'être invité à Canal+, parce que, bah, c'est la maison, comme je le disais, de Jamel, d'Edouard Baird, de Monsieur Manhattan, des Guignols de l'Info, Groland, j'en passe et des meilleurs. Donc, on est appelé à Canal+, et je me souviens très bien, il pleuvait énormément ce jour-là, ce qui est un détail. On est au mois de mai. Il faut savoir que Canal+, c'est pas à Paris même, c'est un peu sur le côté, c'est à Boulogne-Billancourt. Donc, pour les gens qui sont pas parisiens, vous vous dites, oui, bon, c'est la même chose, mais en vrai, quand t'es à Paris, ça met un peu de temps, ce qu'on n'avait pas vraiment prévu déjà. J'arrive à Canal+, en même temps que Jules Fou, d'accord? Donc, on arrive un peu en même temps, et on se rend compte déjà qu'on n'est pas dans le bon bâtiment, parce que Canal+, il y a deux bâtiments.
Oui.
Il y a un bâtiment qui est de l'autre côté de la Seine et un autre bâtiment, enfin d'un côté et l'autre de l'autre côté de la Seine. Okay. Sachant qu'il y a en vrai beaucoup de place entre les deux bâtiments.
Ouais, genre, il y a 15 pont, minutes à pied.
Ah ouais, quand même.
15 minutes à pied. Je vous dis ça, on est déjà en retard. Okay. Donc on envoie un texto à Raph et à Tyrell, à Vincent, en disant on va être en retard. Eux nous disent nous aussi. Ce qui est déjà pas ouf pour un premier rendez-vous avec, encore une fois, je vous le rappelle, quelqu'un qui pèse à Canal+. Donc on se met à courir avec Jules Fou sous la pluie, à courir comme des oufs. Donc,
mais pour vous avez une très bonne condition physique.
Déjà. Non, donc on arrive au bon bâtiment, trempé, parce que je vous le rappelle qu'il pleuvait, essoufflé et suant. Donc trois trucs.
Tout ce qu'on attend d'un auteur à succès.
On attaque un peu tous les sens, si vous voulez. Les cinq sens sont sollicités sur cette arrivée. Donc on arrive, on arrive à Canal, on arrive dans le bureau donc d'Ariel Saraco et Tyrell et Raph ne sont toujours pas là.
Mais...
on arrive avec Julien, genre bonjour, bonjour Florent, machin. Donc on arrive. Ensuite Vincent arrive, un peu plus en retard.
Bah,
pareil, okay. Vincent arrive, genre désolé, méga stress, je suis à la bourre, le mec complètement en retard, parce que Vincent, faut savoir qu'il est toujours un peu stressé quand il arrive à la bourre à des trucs, donc il est en speed. Donc on s'assoit sur le canapé et elle dit bon bah on commence, on attend votre ami. Non non, on attend Raph quand même. Ok, on attend Raph.
Oh, donc, du coup, un moment mais nul où c'est genre
rien ne se passe.
Il pleut.
Rien ne se passe. Il pleut. On est dans le bureau d'Ariel Saraco et elle a sur son écran télé le Festival de Cannes qui est retransmis à ce moment-là. Parce que Canal+ est partenaire du Festival de Cannes. Donc, il y a la montée des marches. Et je me souviens, c'est un détail, mais qui vous donne un peu le goût de ce rendez-vous. Il y a Charlotte Lebon, je crois, de mémoire, qui monte les marches. Non, Marion Cotillard. Marion Cotillard monte les marches. Et Ariel Saraco dit, quand même, elle est belle, Marion. Et Tyrell se retourne et ça a changé de plan. Et c'est Vincent Cassel. Et Tyrell tente une blague en disant ou enfin quand même elle aurait pu se raser hein. Donc très bonne vanne.
Très bonne vanne.
Et là Ariel Saraco dit non non mais parce qu'en fait Marion était dans le plan d'avant.
Oh non.
Et Vincent fait oh non.
Alors que c'était une super vanne putain.
Oh non.
Oui mais ils se connaissent pas en même temps.
Bah et ouais donc, mais attends ça va et... vous êtes pas connus pour être des enfin, t'sais.
Alors c'est la chute de cette histoire tu verras. Et donc Vincent fait non, non, mais parce qu'en fait, dans le plan d'avant, donc il explique sa vanne.
Ah non, quand t'expliques ta blague.
Raphaël arrive, et il faut savoir que Raphaël s'en fout un peu à ce moment-là de la télé. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des courts-métrages sur Internet. Donc, il est poli, mais en vrai, ça l'intéresse pas de ouf, ce rendez-vous. Donc, en fait, pendant tout le rendez-vous, il écoute pas trop. Vincent tente des vannes, elles se plantent toutes. Jules Fou, c'est le plus pro, parce que Jules Fou, c'est le gars qui a les codes. Et moi, j'ose pas parler, et dès que je parle, on ne m'entend pas. Donc, je fais. Ouais, on pourrait faire ça. Non. Donc, nul ce rendez-vous et à Yesh, c'est une catastrophe. Et en fait, au bout d'un moment, elle nous dit bah donc voilà, si vous avez des idées, vous me dites. Elle nous donne sa carte. Ça, c'est le mail des auteurs. Des fois, ils prennent des auteurs, donc ça vous intéresse. Et donc, on fait mais vous. Elle fait non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder les sketchs. En fait, franchement, pour être honnête, c'est Ken Kojandi qui m'a dit qu'il fallait vous rencontrer, mais voilà quoi. Donc, on est là, genre.
Putain, mais vous êtes voué à ce que. En fait, on vous connaisse pas, en fait. Tu vois, c'est...
Ah, bah, ce rendez-vous, pardon, était fait pour montrer que on était nuls. C'est-à-dire que si on a même pas un sketch. C'est-à-dire que. Et à un moment, elle nous dit, mais si vous voulez, on peut regarder le sketch, là. Et forcément, toi, tu dis, bah, non, on va pas aggraver la situation si jamais ça vous plaît pas. Tu vois, donc, on lui a pas dit ça, mais on fait non, mais le mieux, c'est que vous le regardiez dans votre coin et tout. Bon,
qu'elle n'aura jamais fait.
Elle l'a pas fait. Et vraiment, on est sorti en disant mais ce rendez-vous n'a servi à rien. Et surtout que moi je me l'étais monté en pression de ok ouais, Flo, ouais. Tu joues ta carrière là, tu rentres
c'est
à Canal.
Bah ouais.
Et vraiment, vous aviez couru 15 minutes, Florent.
Non mais ce qui est génial c'est que à part Jules Fou encore une fois et Cyprien, t'as pas mal bossé avec lui, tu le sais, qui lui est à l'aise avec ce genre de truc, il fait toujours la bonne petite vanne au bon moment. Raph, Vincent et moi, on était les trois. ça donnait un large éventail de gens qui sont pas faits pour les rendez-vous professionnels. Ouais, c'est-à-dire que moi je suis extrêmement timide, nul. Raph s'en battait les couilles et Vincent, qui est quand même le mec le plus drôle que je connaisse, tapait à côté à chaque vanne, d'accord. Donc vraiment un rendez-vous d'une tristesse. On était arrivé en se disant on va être les nuls, on est reparti. C'est du bon, allez, on va travailler au service, on va jardiner en fait à Canal+. Elle va nous laisser tondre les pelouses. Mais voilà, c'était vraiment très très nul, très nul comme rendez-vous. Mais au final, j'ai plus tard travaillé à Canal+, donc tout est bien.
Qu'elle a regardé ce que t'as fait, bien évidemment.
Pas du tout.
Et tu l'as revu ou pas du tout?
Faire bloquer. Ah ouais, ouais, ben bah là c'est drôle, je l'ai vu cette semaine. Maintenant, en fait, avec vu que je travaille à Canal+, je la croise souvent, mais alors je lui ai pas demandé parce que c'est pas non plus une intime, tu vois. C'est quelqu'un à qui je rendais compte vu que c'est elle qui gère la création. Mais je suis sûr que si je lui demandais, elle ne se souvient pas du tout de ce rendez-vous, je pense. Alors, pareil, elle a dû rencontrer tellement d'humoristes et d'auteurs.
Ils ont dû faire la même en plus.
T'aurais dû lui refaire la blague de Marion Cotillard. Je pense qu'elle aurait capté.
Putain, c'est dommage.
Non, mais je pense qu'elle a même eu des. Elle a dû tomber sur des gens prétentieux, des gens horribles. Enfin, tu vois. Limite, je pense qu'en vrai, vaut mieux ce qu'on a fait nous que quelqu'un qui arrive. Attendez, moi, je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'humour et tout. Nous, on n'était pas trop là-dedans. Mais ouais, les rendez-vous avec Suri 4, on les a tous foirés. Avec le patron d'M6, on a été nuls aussi. à l'époque de Suri 4, mais on avait 20 ans.
Au final, t'as bossé avec tout le monde. Donc,
ouais, c'est ça. Vaut mieux être mal à l'aise et timide que je pense trop à l'aise et du coup être énervant. Mais il faut se dire aussi qu'à l'époque, on avait 21 ans. Donc c'était quand même 21 ans, 22 ans. Donc c'était quand même très jeune.
La fleur de l'âge.
Ah ouais, c'est très jeune, on n'était pas fait pour ça. Et à côté, tout le monde nous disait « Oh là là, c'est super ce que vous faites sur Internet, c'est génial, il y a une mode et tout, machin. » Et d'un coup, t'as la télé qui fait « Nous, on connaît pas, on nous a juste dit que c'était bien, mais vraiment, on s'en balèque, hein, en vrai. » C'était rigolo.
Moi, j'avais fait pas mal de rendez-vous, un peu comme toi, quand je suis arrivé sur Paris. Et j'avais rencontré quand même du beau monde et tout, Farouja et tout. Et c'était des moments, mais nuls, comme ce que tu viens de te dire, tu vois. Ouais. C'était des trucs où j'étais là, je fais « Ouais, moi, je fais des vidéos, mais c'était clacasse, tu sais. » À la limite, toi, tu pouvais défendre quelque chose, tu vois, genre sur i4, ils sont bien mes sketchs. Mais même moi, je faisais des rendez-vous et j'étais même pas d'accord avec ce que je produisais, tu sais. Non, mais c'est claqué, les gars, me prenez pas, vraiment.
Non, mais en vrai, sur i4…
Je suis trop vert.
C'est pour ça que je te disais que c'était vers la fin de moi quand j'y étais, parce que même nous, on n'était pas d'accord sur ce qu'on voulait faire. Moi, elle m'aurait dit… Non, mais moi, elle m'aurait dit « Ça vous dit d'écrire pour… » je te cite un blaze au hasard, disons Édouard Baird, voilà. Ouais. Moi, j'aurais été comme un malade mental, j'aurais fait, mais c'est évident. Sauf que, par exemple, Jules Fou et Vincent, ils voulaient aussi jouer la comédie. Raphaël, lui, il voulait vraiment faire de la fiction court-métrage. Et en plus, lui, il a été plus. C'était une fierté d'être d'Internet, donc il n'avait pas envie de céder à la télé. Il voyait vraiment la télé comme le diable, et peut-être a raison sur certains trucs qu'on nous a proposés. Donc voilà, on n'était même pas d'accord, raccord sur les envies de chacun. Et c'est pour ça, je pense que ça a foiré fin de saison 1. C'est que du coup, on ne voulait pas faire les mêmes choses. Donc c'était rigolo, quoi. Ces rendez-vous, ça montrait. Quand on était ensemble, ça se passait pas trop mal. On arrivait à trouver des terrains d'entente parce qu'on avait quand même un humour similaire et voilà. Mais dès qu'on était face à des décideurs, ça montrait au grand jour à quel point on voulait pas la même chose, quoi. C'est ça qui était rigolo.
C'est vachement disparate.
C'est ça qui est... Exactement.
Les amis, malheureusement, il nous reste plus que 3 minutes.
Déjà
si vous avez des
3
recos,
minutes.
C'est
What
que
c'est
maintenant.
C'est les recos, ouais, c'est maintenant.
Ouais,
d'accord.
C'est maintenant.
2 minutes 20. Est-ce
2 minutes
que vous avez
20.
Une chaîne ou un truc à recommander, s'il vous plaît.
Allez-y, allez-y
en premier. Conseiller aux internautes.
Allez-y en premier, j'ai
Magla,
écoutez, ouais, moi je vais vous conseiller. C'est un compte Insta, vous la trouvez également sur TikTok. C'est une make-up artiste qui est incroyable, qui s'appelle Cindy Chen Design. Je vous l'ai là. Et elle vous fait des trucs magnifiques. Ah. Et c'est trop cool. C'est très original. Donc, n'hésitez pas. Et elle donne plein de conseils, de tutos et tout. J'ai trouvé ça très chouette. Ça change un peu
son nom.
Cindy Chen Design.
Pierre.
Moi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Perruques de Thomas. C'est un mec absolument incroyable. D'habitude, les gens qui font des personnages, ça peut vraiment me casser les couilles. Mais lui, à chaque fois, il est trop, trop juste. Il est trop, trop fort. Donc, c'est juste un gars qui fait des personnages comme on a l'habitude de voir un petit peu. Surtout, on a eu l'habitude de le voir pendant le confinement. Mais là, c'est très réussi. Donc, Les Perruques de Thomas sur Instagram, allez le voir. C'est vraiment trop, trop bien.
Alors, c'est marrant parce que moi aussi, c'est une reco Instagram.
Ah, bah, on est tous ensemble.
Vous avez peut-être vu ces animations, je l'ai partagé récemment en story, ça s'appelle Hilarite Animation. C'est quelqu'un qui prend des témoignages de gens qui racontent et elle les illustre. Et le dernier en date est à chialer de rire.
Ah, c'est bien.
Chialer de rire. C'est une meuf qui anime des histoires qu'on lui envoie, quoi.
Flaubert, à toi, si on doit finir.
C'est un podcast qui vient de sortir. C'est le deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Tier List de Mehdi
Maizi. Ah, bah oui.
Avec Nifa, Sandra Gomez et Yerim Sarr.
Yerim,
il est très drôle, Yerim Sarr. Et en gros, il classe tous les albums de rap. Ils viennent de commencer, hein, donc vraiment, il n'y a que 2 épisodes à rattraper. Et il classe tous les albums de rap du meilleur au pire sur toute l'histoire du rap français. C'est très drôle, c'est très intéressant. Ça donne envie d'écouter les chansons. C'est inspiré de Super Ciné Battle de Daniel Andrieff. Et voilà, c'est vachement bien.
Allez voir, merci. Ça, c'est trop bien. Au revoir, merci Flaubert.
Merci pour cette émission, merci le chat, merci la régie.
Des bisous,
ciao,
merci.
Aux invités.
Au revoir tout le monde.
Merci,
à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.